C'est vous qui le dites.
L'émission d'info local.
Salut tout le monde. Bienvenue dans C'est vous qui le dites, notre quotidienne d'info local du lundi au jeudi de 18h à 19h. Alors aujourd'hui, on va découvrir la musique Sirocco des Hurlements de Léo, qui viennent de sortir un album depuis le 19 septembre. À la fin d'émission, on écoutera un reportage de Chloé qui était présente lors de l'action de la CGT Brest Parking Gratuit du 9 octobre, puis on accueillera ensuite Mathilde pour sa chronique sur les violences policières.
Donc vu que Laurent des Hurlements de Léo, on a du mal à la voir, on va vous présenter une de leurs musiques. Donc on va écouter ici la chanson éponyme de l'album Sirocco sorti par le groupe du coup des Hurlements de Léo le 19 septembre 2025. Donc le groupe se produira aussi le 19 octobre à 17h30 au Cabaret Vauban à Brest, mais sera aussi présent la veille au mythique festival briochin Carnaval au Rock. Donc pour décrire un peu le groupe, dont le prénom Léo provient soit du groupe de skiffle français Les VPR, mais sans doute aussi cela vient de l'unique roman de la poétesse et romancière Émilie Bronte, Léo de Hurlevent du 19e siècle, ils jouent un genre qu'ils définissent eux-mêmes en plaisantant comme de la Java chanson caravaning. Après une pause depuis 2022, ils reviennent avec l'album Sirocco qui symbolise aussi le retour du guitariste et chanteur Erwan Naour, le créateur du groupe en 1996, aux côtés de Laurent Kebboust. La pochette me fait fortement penser à celle de Brel, bien sûr les Marquises de 1977, des nuages et du minimalisme, mais aussi un bel hommage à la poésie de Brel, à la poésie de la chanson française chez le groupe. On parle de visuel, mais là on retourne à l'auditif pour écouter Sirocco des Hurlements de Léo. Bonne écoute sur Radio U.
Un voyage immobile dans le fond, dans l'intime, dans le cœur de ma cible, paysage invisible. Au fond de ma rétine, l'océan se devine. Un voyage immobile dans le fond, dans l'intime. La douleur en exil, destinée clandestine. Au fond de ma rétine, le désert se dessine. Il y a comme un vent qui se lève, mon cerveau. Fantasme s'illumine. Il y a comme un vent qui se lève, un air qui agite mon cerveau. Et moi là-dedans.
C'était Sirocco des Hurlements de Léo. Alors, en attendant d'avoir un des chanteurs, on va écouter un PAD de Chloé concernant l'action de la CGT du CHU de Brest, opération parking gratuit le 9 octobre. Un entretien avec le secrétaire général du syndicat sur l'impact financier et moral de ces parkings payants et sur l'ambition de l'opération menée le 9 octobre.
Octobre 2024, nous nous retrouvons à l'entrée de l'hôpital Morvan. La CGT du CHU de Brest avait organisé l'opération parking gratuit. Selon le flyer distribué par les syndicalistes, cette opération est pour la défense de notre système de santé et pour un accès de qualité aux services publics. Thomas, infirmier à l'hôpital, ainsi que secrétaire général du syndicat, nous raconte les prémices du parking payant et nous raconte qui est concerné par cela.
Alors en fait, là, les parkings ont été cédés à une multinationale depuis 2 ans. Avant, l'hôpital Morvan était régulé au niveau du parking, mais c'était une trésorerie entièrement publique. Là, on a une gestion, une trésorerie qui est entièrement privée.
Vous parliez justement, vous évoquiez une multinationale. Pourquoi justement ils ont cédé à une multinationale et quel est le nom de cette fameuse multinationale ?
Alors, la multinationale CQPark, c'est une société spécialisée dans la gestion des parkings privés, publics. Et du coup, en fait, pourquoi il y a eu un partenariat ? Parce qu'en fait, ils ont investi en partie dans le nouveau parking silo qui est à la Cavale-Blanche. En gros, il n'y avait pas assez de financement public hospitalier pour construire ce parking, alors qu'il manquait des places. Donc, en fait, CQPark a investi une partie dans ce nouveau parking. Et en échange, l'hôpital public a cédé l'entièreté de la gestion, que ce soit financière ou d'entrée-sortie.
Très bien. Et qui est concerné par justement ce parking payant ? Ça va être aussi les visiteurs, ça va être les infirmiers, les aides-soignants, tout le personnel de l'hôpital. Enfin, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui ça concerne ?
Alors, il y a différentes situations. Pour le personnel, tout le monde a un accès gratuit à la Cavale Blanche. Par contre, ici à Morvan, il y a des personnels qui sont exclus de l'accès au site et qui, s'ils veulent y rentrer, ils sont obligés de payer. Alors, c'est en lien avec des critères arbitraires en fonction des horaires de travail. En tout cas, on sait qu'il y a 30% du personnel qui est exclu de l'accès au site Morvan, ce qui est très compliqué au centre-ville. Et ensuite, pour les patients, alors il y a un tarif préférentiel pour les patients qui sont en consultation ou hospitalisés. Par contre, pour les familles et les autres usagers, c'est un tarif plein.
On va être sur des tarifs horaires, donc les 30 premières minutes sont gratuites. Au bout de la cinquième heure, on arrive à 12h40 pour finir à 36h10 en un jour. Il faut savoir qu'il y a aussi des propositions d'abonnement. Donc permanent 24-24, 7 jours sur 7, on a 99€ par mois, ce qui est très conséquent. Pour la nuit, donc c'est marqué de 18h30 à 9h30, plus dimanche et jours fériés, on va être à 71€ par mois. Et il y a un forfait IEP sur présentation du code identification patient sur borne de paiement qui est de 1,80€ pour un jour.
Alors pour les soignants et le personnel qui n'ont pas accès au site, c'est très compliqué parce que du coup, évidemment, au centre-ville, il y a très très peu de places, en particulier en ce moment où il y a des travaux. Donc ça complique énormément, effectivement, pour ceux qui n'ont pas accès. Après, dans les services, il faut savoir, il faut s'occuper des patients, leur donner des étiquettes pour qu'ils puissent payer. Il y a beaucoup de patients un peu âgés, fragiles, qui ont beaucoup de mal avec ce système-là. Et le personnel est très, très sollicité. Donc c'est du travail en plus, ouais.
En parallèle, on constate une absence de communication entre la direction de l'hôpital ainsi que les syndicalistes, ce qui a amené la CGT à agir d'un point de vue national.
Alors en fait, ça fait 2 ans qu'on essaye de négocier à la baisse des tarifs, les accès pour le personnel. Sauf qu'en fait, le contrat avec CQPark est tellement solide et engagé sur 30 ans que c'est très très dur d'avoir des modifications de ce contrat. Donc au niveau de la direction, en fait, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc on a arrêté les discussions. Par contre, on a interpellé les politiques, notamment les députés, pour qu'effectivement il y ait une législation qui soit faite au niveau national pour redonner effectivement de la gratuité aux services hospitaliers. Alors on a contacté les députés de la circonscription qui dépendent de l'hôpital, notamment Pierre Cadalin et Mélanie Thomas, mais il y a aussi d'autres députés, notamment de l'Est de la France, du Parti Socialiste, Stéphane Ablot, qui était sur le sujet, et aussi un député de LFI du Vaucluse. Et donc il y a eu un travail avec d'autres hôpitaux et qui aboutit au dépôt de 2 projets de loi pour soit un retour total à la gratuité, soit partiel en fonction des projets de loi.
Imaginons, on peut avoir un parking gratuit au sein de l'hôpital Morvan. Étant donné qu'on est dans la ville de Brest et qu'il y a énormément de parkings payants, comment vous envisagez ça? Parce que possiblement, il y a des Brestois qui vont forcément venir sur l'hôpital gratuit. Comment vous envisagez justement ce parking gratuit-là, la CGT?
Avant les parkings payants, il y avait une régulation de l'accès au parking avec un agent de sécurité et ça se passait très bien. Donc on peut réguler sans faire payer. Et puis sachant que là, n'importe qui peut rentrer dans le parking hospitalier, bon, en payant évidemment, et on peut même prendre un abonnement mensuel. Donc il y a des riverains qui peuvent très bien se garer au mois sans avoir rien à voir avec l'hôpital. Donc ça ne sert pas non plus complètement à réguler.
Merci Chloé pour ce reportage. Alors tout de suite, on accueille le chanteur Laurent des Hurlements de Léo. Ça va Laurent?
Bonjour, ça va et vous?
Bah très bien, merci. Alors, comment se passe la sortie de l'album?
Alors, l'album est sorti le 19 septembre. C'est notre 9e album. Il s'appelle Sirocco. Et voilà, quand je vous parle, j'ai un petit écho là, mais ça a l'air d'aller mieux là.
Ok, là, ça va comme ça?
Allô?
Allô?
Ouais, oui, ça a l'air d'aller, ouais.
D'accord. Non,
c'est dur, c'est quand même dur. Il y a un gros écho à chaque fois que je parle.
Ok, hésite pas à me faire répéter si jamais c'est un peu compliqué pour toi d'entendre.
Très bien, avec plaisir.
Voilà, alors combien de temps ça vous a pris de concevoir et d'imaginer l'album?
Alors, on a travaillé sur l'album pendant 2 ans. Donc 2 années. Alors, on n'y a pas consacré 2 ans, mais en vrai, on y passait à peu près 4-5 jours par mois, en fait, sur 2 années. Chacun d'entre nous travaille de son côté, on a aménagé des pages d'écriture et de composition avec Erwan, après on est revenu au local, on a présenté les morceaux au groupe, le groupe a fait des arrangements, après certains d'entre nous sont partis aussi chez eux, on travaille sur des morceaux et des propositions de morceaux, on est 9 musiciens dans le groupe, donc c'est un travail tout à fait artisanal et collégial depuis le début de notre aventure en 1995. Voilà, on célèbre cette année les 30 ans du groupe aussi avec cet album.
C'est qui un petit peu les membres qui composent le groupe?
Alors, les membres fondateurs, c'est Erwan et puis moi. Laurent, on s'est rencontrés, on avait 10 ans, on s'est rencontrés en colonie de vacances. On est tous les deux natifs du sud-ouest de la France. On a grandi et vécu dans une ville de petite capacité qui s'appelle Mont-de-Marsan, mais qui est quand même une préfecture. Quand on a été jeunes adultes, on est partis travailler tous les deux en 1995 dans le social à Bordeaux. Lui, il était éducateur spécialisé, moi j'étais animateur socioculturel. Je travaillais dans un centre social, lui dans un IME, et on a décidé de monter le groupe en fait. Donc c'est un peu un accident de parcours, parce qu'on n'avait pas vraiment prévu, si tu veux, de vivre pendant 30 ans de notre musique en fait. Et on a commencé à composer nos chansons en fait. On a enregistré un premier album en 98 qui est sorti, qui a reçu un succès public et qui nous a permis d'être là aujourd'hui encore en train de parler avec toi.
Et alors du coup, vous avez décidé d'appeler un titre et un album Sirocco. Ça fait référence
ouais.
À quoi Sirocco?
Sirocco, c'est un manteau qui vient de Méditerranée. Le vent est un fluide des possibles, qui nous permet de passer toutes les frontières, sans visa, sans passeport. La métaphore pour nous était assez jolie, dans la situation dans laquelle on peut se retrouver tous les uns et les autres aujourd'hui, dans cette espèce de quotidien qui est un peu pesant, mais néanmoins avec cette idée de se dire qu'après la pluie vient le beau temps, et qu'il faut avoir des possibilités, un champ des possibles, une vision de l'avenir pas trop maussade ou pas trop dégueulasse malgré tout, en se disant que ensemble on est plus fort et qu'on est capable quand même d'aller de l'avant quoi.
C'est un message de force du coup?
Ah oui, c'est un message de force. Le vent est un fluide qui peut avoir de la force aussi, effectivement, bousculer quelques barrières et remettre faire table rase aussi de pas mal de choses, en fait, sur son passage.
Alors, ce que vous écrivez, c'est très imagé. Je dirais que c'est entre rêves, tant on peut rentrer dans un univers précis, comme un peu le Far West avec Sirocco. Où est-ce que vous puisez l'inspiration?
L'inspiration, elle puise un peu dans tout ce qu'on vit tous les jours, si tu veux, le quotidien, le plus banal en fait. L'amour, les amitiés, les déceptions, les départs, les arrivées. Quand je parle de départ, je parle de la perte de quelqu'un qu'on a enterré trop tôt, d'arrivée, de naissance en fait. Aussi dans notre quotidien social et politique, comment on se situe, l'âge que l'on a, comment on comprend la société, quelle appréhension on entretient vis-à-vis d'elle, comment nous, en tant que père de famille, aujourd'hui, on est entre 45 et 50 ans tous, moi j'ai deux filles qui ont 16 et 20 ans, les espoirs qu'elles ont dans les yeux. Quand elle parle de projets, de perspectives, de projections, comment les accompagner, comment être solide en fait, voilà, dans la société qu'on nous propose, voilà, et se proposer toujours un espoir, quoi.
Et du coup, ce que vous écrivez, c'est entre des histoires réelles et un peu de contes quand même, ou tout est vraiment 100% factuel, réel?
Non. Il n'y a pas tout qui est factuel et réel, en fait. Il y a une part de d'irréalisme aussi parfois. Dans la chanson Sirocco, on évoque des choses, mais on les nomme pas. On passe de l'un à l'autre, en fait. Il y a des chansons qui peuvent être très imagées et poétiques, d'autres qui peuvent être un peu plus crues. Enfin, voilà. Il n'y a pas vraiment de recette. On passe de l'un à l'autre avec envie et aisance.
Alors, dans Matador, vous abordez le thème du manque suite à une rupture amoureuse. Un thème plutôt nostalgique et mélancolique, mais la musique derrière est très joyeuse, limite festive. Dans T'as quitté la casa également, vous parlez de la mort d'un ami avec une musique plutôt dansante. Pourquoi ce choix de contraste ?
Alors, c'est plusieurs amis dont t'as quitté la casa. Alors, pourquoi ce choix de contraste? Parce qu'en fait, nous, depuis le départ, on fait une musique qui est très éclectique. On peut passer, comme tu vois, par exemple, dans Matador, au niveau des arrangements musicaux. On est sur un mix entre le rock, le punk, et puis la chanson réaliste, mais aussi à travers le texte et ces amours qu'on a perdus et qu'on imagine retrouver. Et au niveau de la musique, on est sur des cuivres très très latins, par exemple. Dans T'as quitté la casa, on est plutôt sur une musique un peu plus solaire encore, qui nous amène ailleurs, qui va lorgner un peu vers le Brésil ou la Batucada. L'idée qu'on se fait de la musique qu'on propose avec Sur le monde Léo, on a 30 ans d'existence, on a beaucoup voyagé, on a traversé 35 pays, c'est de pouvoir justement... brouiller un peu les pistes en se disant que si on raconte quelque chose qui est un peu nostalgique ou un peu triste, on va contrebalancer en essayant d'être joyeux ou festif dans la musique pour que chacun s'y retrouve en fait. C'est-à-dire que quand le trait écriture est noir, la musique ne l'est pas forcément en fait. Pour qu'on puisse vivre un moment en concert un peu... tous ensemble, en fait, voilà, et pas forcément, pas la messe, en fait, nos concerts. Mmh. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que si, avec la musique qu'on propose, on offre pendant une heure et demie un petit tour du monde aux gens qui viennent nous voir, on a l'impression d'avoir gagné la partie, quoi.
C'est vrai que vos musiques font vraiment voyager, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça en les écoutant. Dans Suite Liberté Chérie, justement, il y a une phrase que j'ai pas trop comprise, c'est « plus on avance, moins c'est fini ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
C'est-à-dire que, en fait, il y a ce phénomène de pas de renoncement, mais pourquoi pas un peu de résilience. Plus on avance, moins c'est fini. C'est-à-dire que quand on a pris conscience, en fait, qu'on était allé au bout du bout de ce qu'on pouvait offrir à l'autre, recevoir de l'autre, et qu'on peut rester un peu pas intransigeant, mais le contraire. Si on arrive à se dire qu'on a la compréhension totale de l'autre et qu'on l'excuse en fait par rapport à ce qui a pu se passer, eh bien en fait ça nous permet de continuer à avancer. Plus on avance, moins c'est fini. C'est un petit peu comme si je te disais, il y a toujours plus profond que le fond, tu vois. En fait, peu importe, voilà, c'est passé des choses. Mais si on continue d'avancer ensemble, on a encore envie, on est encore ensemble et on y va, quoi.
Et à contrario, dans Litanie, vous dites « plus on avance, plus c'est fini ». Est-ce que ces deux musiques ont un lien précis? Elles se complètent peut-être?
Non, ces deux musiques n'ont pas de lien précis. Ces deux métaphores ont été utilisées de façon différente et dans un contexte différent. Litanie, justement, on est quand même... Litanie, tu sais ce que c'est, en fait. C'est une complainte plutôt religieuse qu'on sort d'un contexte et qu'on bouleverse en se disant que... allez, viens, quittons la meute et puis ces chiens, on sera deux à avoir tort parce que leur raison pue la mort. Allez, viens, embrassons-nous, on n'a pas tort. En fait, on s'est mis dans la peau de personnages qui étaient jugés par une société peut-être patriarcale, une société peut-être encore sous la houlette, le joug et le poids de du bon seigneur en place, en fait, et de la bienséance, en fait. Et de proposer à de jeunes femmes ou de jeunes hommes de pouvoir s'aimer d'une manière tout à fait libre, en fait, en affirmant que leur choix était le bon et en regardant un peu tout ça d'un air narquois avec un doigt tendu vers le ciel, quoi. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Laurent. Alors, avant de poursuivre l'interview, on va écouter une des musiques de votre album, c'est Matador. Bonne écoute sur Radio U.
Merci beaucoup.
Parfois quand je m'endors, revient la nostalgie de tes mains sur mon corps. Je te vois, tu souris, même si le temps perdu ne se rattrape plus. Ton soleil est mis libre toujours dans mes nuits. Même si j'ai fui le nord, à d'autres dit je t'aime. Ta chaleur brûle encore la nuit dans mon sommeil. Même si j'ai fait le mort pour quitter les arènes, à toi je pense encore, mon amour est cuillère. Au coin d'une rue, tes yeux et ton sourire, pour qui j'ai tant couru, m'ont tout fait rejaillir. Ta robe de printemps, nos baisers sur ce banc, rien n'est jamais acquis, je n'avais rien compris. Même si j'ai fui le nord, à d'autres dit je t'aime. Ta chaleur brûle encore la nuit dans mon sommeil. Même si j'ai fait le mort pour quitter les arènes, secrètement je t'aime, mon amour est cuillème.
Les cœurs sont des trésors que la raison m'amène.
Ferme les yeux, je te sens approcher, doucement à l'oreille, tu viens me murmurer, continue de rêver, les choses sont ainsi faites, j'ai ma vie, toi la tienne, les songes nous appartiennent. Même si j'ai fui le nord, promis l'autre je t'aime, à toi je pense encore, la nuit dans mon sommeil. Même si j'ai fait le mort, pour quitter les arènes, follement je t'adore, mon amour est cruel, les cœurs sont des trésors, que la raison m'amène. Mais par un coup du sort, qui sait ce qu'ils deviennent? Nos amants mis à mort, coulent encore dans nos veines. Malgré les coups du sort, un beau jour ils reviennent.
Alors c'était Matador des Hurlements de Léo, de leur album Sirocco, paru le 19 septembre. Alors je crois que ça a coupé avec Laurent, donc on va écouter la chronique de Mathilde, mais d'abord on dit des grands merci à Laurent d'être venu ce soir avec nous à Radio U.
Je ne suis pas d'accord avec le mot violence policière. Mais pourquoi ? C'est un débat très intéressant. Parce que violence policière, ça veut dire que les policiers, structurellement, pourraient être violents. Ils le sont parce que nous leur demandons de l'être, d'utiliser la force au nom de la loi. Parce qu'il faut rétablir l'ordre public.
Alors, Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur, est de nouveau ministre de la Justice depuis peu. Dans l'émission Face à Face sur RMC le 5 avril 2023. Les violences policières, on en parle depuis longtemps dans la sphère médiatique, que ce soit pour les nier ou les dénoncer. Dans cet extrait, Darmanin fait référence à la manifestation de Sainte-Soline contre les mégamacines en mars 2023. Manifestation interdite ayant entraîné une violente répression des manifestants par les forces de l'ordre. Au bilan, plus de 200 blessés, dont des personnes mutilées et plongées dans le coma. On parle d'armée face à la foule. Si ces propos de l'ancien ministre de l'Intérieur ne nient pas qu'un policier puisse de temps en temps utiliser un tout petit peu trop fort sa matraque sur un citoyen exerçant son droit à la manifestation, il nie l'existence d'un système, c'est-à-dire d'une structure qui ferait que les policiers seraient violents. On parle de violence systémique. Et en effet, Gérard, pourquoi on parlerait d'un système ? Eh bien parce qu'en France, entre 2020 et 2022, tu étais déjà ministre, 107 décès ont eu lieu en garde à vue ou lors d'interventions policières d'après le média indépendant Basta. 107 décès. Ça correspond à environ un mort par semaine sur 2 ans. Sans que ce chiffre, 107, ne fasse jamais la une d'un média. Pourtant, CNews parle souvent des violences, par exemple, mais uniquement celles infligées aux policiers, sans jamais questionner l'inverse. Monsieur le garde des Sceaux a une réponse pour ces 107 décès. La légitime défense. Les balles tirées étaient les seules réponses proportionnées à la violence reçue. Mais laissez-moi vous faire un petit point loi. La proportionnalité pour les gendarmes est encadrée par l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Celui-ci qui prévoit de pouvoir user de la violence dans l'exercice de ses fonctions seulement en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Alors si la notion de nécessité peut faire débat du style « faut-il gazer, frapper un manifestant qui crie à CAB ?» En effet, le danger potentiel que représente cet individu peut être laissé à l'interprétation de chacun. La proportionnalité, cependant, de la violence rendue, elle, ne devrait pas faire débat. Sur le chiffre 107 donné par Basta pour la période 2020-2022, qu'on va réduire à 103 par manque de données, 41 des décès sont dus à des tirs par balle et les 62 restants ont lieu en garde à vue. On parle de 62 personnes placées en garde à vue pour motifs divers qui perdent la vie en cellule. Toujours d'après Basta, en France, sur ces 62 personnes, une part décède de mort dite naturelle, une autre part se suicide et le reste, en majorité, meurt d'une autre façon. Ce sont les causes officielles de décès dont je vous parle. En écrivant ma chronique, je réalise que ces chiffres du média Basta sont les seuls que j'ai trouvés sur le sujet. Il y a une absence quasi totale de transparence sur les causes des décès en garde à vue. Ces morts, qui se comptent en dizaines, ne font l'objet d'aucune communication de la part du ministère de l'Intérieur. C'est aussi valable à l'échelle de l'UE, où depuis 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné à 236 reprises des pays membres pour ne pas avoir enquêté sur des cas de torture, de mauvais traitements ou de décès impliquant la police. 236 condamnations pour ne pas avoir effectué d'enquête. Si Gérard Darmanin oppose les forces de l'ordre protégeant l'ordre public comme on l'a entendu tout à l'heure, il les oppose au camp des casseurs, comme il les appelle. Il est impossible de ne pas notifier que tous ces individus interpellés, lorsqu'ils décèdent en garde à vue, ne reçoivent pas la même couverture médiatique une fois morts. Ces décès sans justification officielle, par leur nombre, ne sont pas le résultat d'individus isolés, mais bien inscrits dans un système violent. Je terminerai en rappelant que les policiers sont également et directement victimes de ces violences structurelles, entraînant parfois leur démission. Je vous recommande sur le sujet l'épisode « Policiers indociles » du podcast « Les pieds sur terre » sur France Culture. Vous pourrez entendre 2 rares témoignages de policiers racontant de l'intérieur comment ils ont été témoins de ces violences. Bon, après avoir dit tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre tout ça ? La lutte contre ces violences passe d'abord par leur reconnaissance en tant que telle. Si ces témoignages de policiers se multipliaient, la reconnaissance de ces violences serait déjà un premier pas vers leur lutte. Et puis en espérant que notre nouveau ministre de l'Intérieur sera plus à la hauteur et préoccupé par ce sujet.
Merci beaucoup Mathilde pour cette chronique. Je précise que les Hurlements de Léo sont en concert le 19 au cabaret Vauban. Donc voilà, vous pouvez réserver vos billets en ligne. Et merci à vous, les auditeurs et auditrices, d'avoir écouté C'est vous qui le dites. On se retrouve demain à 18h ou bien sur notre site radio-u.org où vous pouvez réécouter nos émissions en podcast. Bonne soirée.
Radio-U.